Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'évangile de Luc, au chapitre 5, Luc 5, et nous allons lire les 11 premiers versets. Évangile de Luc, chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au 11e. Dans ma Bible, il est dit « Pêche miraculeuse, Simon, Jacques et Jean suivent Jésus » comme titre. Or, un jour, la foule se serrait contre Jésus à l'écoute de la parole de Dieu. Il se tenait au bord du lac de Génézaret. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs qui en étaient descendus lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et demanda à celui-ci de quitter le rivage et d'avancer un peu. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais tout de même jeter les filets. » Ils le firent et capturèrent une grande quantité de poissons. Leurs filets même se déchiraient. Ils firent signe à leurs camarades de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon tomba à genoux, au genou de Jésus, en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un coupable. » C'est que l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pris. De même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu auras à capturer. » Ramenant alors les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. Amen.
J'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme un vieil outil tout rouillé? J'en vois quelques-uns qui sont un peu... Qu'est-ce que c'est que cette question? Je comprends, elle n'est peut-être pas très claire comme ça. Je suis embêtée, j'aurais bien aimé avoir la réponse quand même. Voilà ce que je vous propose. Je garde ma question pour l'instant... Vous la gardez en tête aussi, et je vais vous la reposer à la fin de la prédication. Et j'espère qu'à ce moment-là, vous pourrez me répondre. Alors du coup, on va plonger directement dans le sujet que je voudrais aborder avec vous ce matin. Et ce sujet, il me tient beaucoup à cœur. Il s'agit du regard. J'aime beaucoup cette partie du corps, les yeux. Parce que on dit que les yeux, ils ne peuvent pas mentir. Vous pouvez maquiller vos paroles, vous pouvez essayer de transformer vos gestes, mais vos yeux, ils diront la vérité sur ce que vous ressentez vraiment. Un regard, ça peut apporter beaucoup de peine et de douleur. Un regard mauvais, un regard condescendant qui vous prend de haut comme ça. On parle même du regard qui tue. Un bon regard noir, ça fait mal. Mais un regard, ça peut aussi apporter beaucoup de bonnes choses. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que le regard d'une maman qui voit son enfant? Un regard de compassion, un regard qui encourage, un regard complice. Ah, je vois deux, trois regards dans la salle ce matin qui me disent « Allez, tu peux le faire, partage avec nous. » Et ça me fait du bien, ça m'aide. Mais il n'y a pas seulement le regard qu'on porte sur l'autre. Il y a aussi le regard qu'on a sur soi-même. Est-ce que je me regarde en me disant « Oh, par avance, je me pardonne tout, je suis parfaite » Ou alors, est-ce qu'au contraire, je me regarde en cherchant chacun de mes petits défauts, chaque fois que j'ai pu faire une petite erreur, en me disant « Là, tu n'as pas bien fait ». Ça nous arrive, hein, de nous regarder comme ça. On se casse toi-même tout le temps, tout le temps. Je voudrais partager une illustration, une image avec vous à ce propos. Je crois que Jésus, il aimait beaucoup deux choses. Il aimait beaucoup parler en parabole pour aider les gens à rentrer dans le sujet qu'il avait envie d'expliquer. Et puis, il aimait beaucoup laisser venir les enfants à lui. Et comme je voudrais que Jésus soit mon exemple, ce matin, je voudrais faire comme lui. Alors, c'est la prédication, c'est pour les grands, mais c'est aussi pour les petits. Alors, je voudrais inviter les enfants à venir pour qu'ils puissent écouter tout spécialement l'histoire de ce matin. Est-ce que les enfants veulent bien venir devant ? Alors, est-ce qu'ils sont tous là ? Alors, attendez, moi, je voudrais vous voir un peu. Alors, je m'excuse auprès des adultes, je vais vous tourner un peu le dos. Mais je voudrais bien voir les enfants, voilà. Est-ce que tout le monde me voit bien ? Oui ? Comment est-ce que vous allez ? Parfait, c'est les vacances là, non ? Oui, ça fait du bien les vacances. Alors, ce matin, je vais vous raconter une histoire de peau. De peau. En fait, cette histoire, c'est pas une histoire vraie, c'est un conte. Comment est-ce que ça commence un conte ? Oui ?
Il était une fois.
Il était une fois. Alors, il était une fois une vieille dame chinoise qui habitait une toute petite maison, tout en haut de la colline. Et vous savez quoi ? Sa maison était tellement petite qu'il n'y avait pas de robinet. Non, pas de baignoire, pas d'évier. Non, même pas un puits. Alors pour aller chercher l'eau, il fallait descendre toute la colline et aller jusqu'à la rivière qui était en bas. C'était loin, hein ? C'est quand même pratique, nous, quand on peut avoir de l'eau. Hein ? Alors, la vieille dame, tous les jours, elle prenait deux gros pots en terre. Elle en mettait un à droite, un à gauche. Elle les accrochait sur une grande barre et hop, sur les épaules. Et elle descendait toute la colline pour aller chercher l'eau. Il fallait remplir les gros pots. Hop, on remet sur les épaules et là, c'est lourd. Et il faut remonter jusqu'en haut, à tout petit pas, parce que c'est lourd de l'eau sur les épaules. Mais il y a un problème. Quand elle arrivait en haut, le pot ici à gauche, il était plein au départ. Et quand elle arrive, il n'y a plus que la moitié de l'eau dedans. Vous savez pourquoi ? Elle a fait tomber la moitié ? Ah non, elle faisait très attention à ne pas faire tomber.
Peut-être, eh ben parce que comme c'était de la terre, elle a pris un petit peu de l'eau.
Eh ben c'est à peu près ça. C'est que le pot, il était un petit peu vieux. Alors, il y avait des petites fissures au fond. Et quand il y a des petites fissures, l'eau, elle passe, elle fait ploc, 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 ploc. Et tout le long du chemin, pendant qu'elle marchait, que c'était lourd, ben ça faisait ploc, ploc, ploc. Et le temps qu'elle remonte jusqu'en haut, il n'y avait plus que la moitié de l'eau. Alors j'ai dit que c'était un conte, et dans ce conte, les pots, ils savent penser et ils savent même parler. Vous vous rendez compte ? Et le pot de droite, il se moquait un petit peu du pot de gauche. Il disait, moi, je tiens bien l'eau. Quand j'arrive en haut, toute l'eau est là, je fais bien mon travail. Toi, tu es nul. Regarde, tu n'es même pas capable de garder l'eau. C'est pas très gentil, hein. Et le pot de gauche, lui, bah, il était bien malheureux. Il faisait tout ce qu'il pouvait, il essayait de serrer, serrer, serrer pour pas que l'eau parte. Et elle partait quand même. Il était très, très malheureux et ça a duré 2 ans. 2 ans, tous les jours, la vieille dame montait. Et là, ploc, ploc, ploc. Et quand elle arrivait, il n'y avait plus que la moitié de l'eau dans un des pots. Alors un jour, le pot de gauche, il était tellement triste, il a appelé la vieille dame et lui a dit « Mais tu sais, moi je suis un vieux pot, j'ai des fissures, regarde. Quand tu arrives en haut, il n'y a plus que la moitié de l'eau. Peut-être que tu ferais mieux de me remplacer. Achète un autre pot, c'est pas grave, mets-moi dans un coin, jette-moi, et puis tu fais tellement d'efforts, et puis moi je ne sers à rien. » Est-ce que vous savez ce qu'elle a fait, la vieille dame ?
Elle a quand même gardé.
Elle a fait mieux que ça.
Elle l'a réparé ?
Elle a fait mieux que ça. Ah non, elle ne l'a pas jeté. Elle lui a souri. Elle lui a fait un grand sourire et elle l'a regardé avec des yeux tout doux, tout gentils. Et elle lui a dit « Mais tu sais, moi je sais très bien que tu as des fissures. Je le sais depuis le début. J'ai vu que tu perdais de l'eau. Mais tu sais ce que j'ai fait ? J'ai planté des graines tout le long du chemin, de la rivière jusqu'à la maison. Et tous les jours quand on passe, que les petites gouttes, elles tombent, elles arrosent les graines. Et depuis 2 ans, moi, j'ai des belles fleurs, j'ai des beaux légumes que tu as arrosés tous les jours. Et du coup, ils ont grandi, ils sont devenus beaux. Et j'ai des fleurs pour décorer ma maison et des légumes pour manger tous les jours. J'ai pas besoin de te réparer, j'ai pas besoin que tu sois différent. Tu es très bien, juste comme tu es là maintenant. Je veux te garder, toi, avec tes fissures. Vous imaginez combien le pot, il était heureux ? Lui qui pensait qu'il était nul, il servait à rien. En fait, il faisait quelque chose que personne ne pouvait faire à sa place. Il n'y a que lui qui pouvait le faire. Vous savez, les enfants, des fois, on se sent un petit peu comme un pot avec des fissures. Des fois, on a l'impression qu'on ne sait pas faire, qu'on n'est pas assez bien. Mais il y a quelqu'un, et c'est Jésus, qui quand il vous regarde, il vous dit « J'ai pas besoin que tu sois plus grand, plus petit, j'ai pas besoin que tu aies les cheveux plus longs ou plus courts, tu es juste bien comme tu es. Et tu peux être utile juste comme tu es. » Alors voilà, mon histoire du pot, elle est finie, mais par contre le message de ce matin, il n'est pas fini. Donc vous pouvez retourner avec vos parents. Et si vous voulez continuer à écouter ce que je vais dire, ben je serai très contente. Quel est le regard que nous avons sur nous-mêmes ? On a tous une vie, on a tous un passé. Et parfois ce passé, il fait qu'on s'est pris quelques chocs, quelques coups. Et peut-être qu'on a l'impression d'avoir une ou deux fissures. Peut-être qu'on a l'impression qu'on laisse un peu filer l'eau. Peut-être que vous faites ploc-ploc. Le texte de Luc 5 qui a été lu tout à l'heure, il me fait beaucoup penser à l'histoire du pot fêlé. Ça vous étonne peut-être, hein ? Mais le pot de l'histoire, pour moi, c'est Pierre. Pierre, c'est un personnage connu de la Bible. Quand on pense à Pierre, on pense à quelqu'un, un leader, avec la bouche toujours ouverte. Celui qui fonce en premier. Celui qui mâche pas ses mots. Le premier qui a dit à Jésus, « Toi, tu es le Fils de Dieu. » Bref, c'est un personnage incontournable de l'histoire de la Bible. Mais pourtant, Pierre, c'est un pot avec quelques bonnes fissures quand même. Et peut-être que la plus grande, c'est quand il a renié Jésus. 3 fois. 3 fêlures. Bam, bam. Et ça, il a dû le porter. Et ça ne doit pas être facile. Mais là, dans Luc 5, on est au tout début de l'histoire de Jésus et Pierre. Leur première rencontre. Et dans ce texte-là de Luc 5, je ne vois pas un Pierre sûr de lui et de sa capacité. Essayons d'imaginer. Nous sommes partis, c'est encore la nuit, on est loin encore du jour. On a pris nos filets sur le dos, on a poussé les barques, on est allé jusqu'au milieu du lac. Et là, on jette, on tire. Rien. On jette, on tire, rien du tout. Et la fatigue commence à venir, mais on continue, on jette, on attend, on espère, la prise, le poisson, rien du tout. Puis le soleil se lève, et là on sait que c'est trop tard, les poissons ils sont partis trop loin au fond de l'eau, on n'attrapera plus rien. Alors on rentre. C'est pas une pêche moyenne qu'ils ont fait ce jour-là. C'est une pêche catastrophique. Pas un poisson. Des heures et des heures de travail, d'efforts physiques, pour rien du tout. Il n'y a pas de quoi faire le fier à ce moment-là pour Pierre. C'est un petit peu un coup à son estime en tant que pêcheur, en tant que professionnel de la pêche. Donc Pierre, il est là, en train de laver ses filets qui lui ont servi à rien. Il est avec les autres, ils sont fatigués, ils sont énervés, ils sont frustrés. Ils sont en train de ruminer dans leur tête, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pas dû faire, et qu'est-ce que lui, il aurait dû faire, et peut-être qu'on aurait... Rien du tout. Et à ce moment-là, un homme arrive, accompagné d'une grande foule. Et cet homme-là, il est un peu gonflé quand même, parce qu'il vient et il dit, écoute, je voudrais monter sur ta barque, emmène-moi avec toi. Quoi, après tout ça? Après toute cette nuit à travailler pour rien, faut encore que j'y... Bon, faut reconnaître à Pierre quand même. Il y va, il n'hésite pas. Quelqu'un, visiblement un maître spirituel, lui demande un service, même s'il est fatigué, même s'il est énervé. Il y va. On parle souvent du miracle qui va suivre. D'ailleurs, c'est amusant parce que Philippe a dit le titre qu'il y avait sous ce passage, dit « La pêche miraculeuse ». C'est peut-être de ça qu'on parle le plus dans ce passage. De ces pêcheurs qui vont faire confiance aveuglément à Jésus, eux qui n'ont rien pris alors qu'ils sont professionnels, ils vont y aller, ils vont jeter les filets, alors que ça a l'air complètement ridicule, c'est plus l'heure. Ils vont lui faire confiance à Jésus. Pierre, il fait quand même remarquer à Jésus qu'ils ont essayé toute la nuit. Ils ont donné quand même. Mais bon, le verset 5 dit « Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » C'est ta responsabilité quand même. Si on ne prend rien, c'est plus ma faute, là. Je suis plus responsable. Mais c'est quand même un magnifique acte de foi, parce qu'il y est allé. Et peut-être encore plus incroyable, le miracle en lui-même. Ce coup-ci, la pêche marche. Il y a du poisson. Tellement de poissons qu'ils n'arrivent même pas à remonter les filets, ils risquent de casser. Ah, ça, c'est magnifique. C'est la récompense. C'est la récompense de l'acte de foi, c'est le miracle en action. Ça chamboule tout quand Jésus est là. Oui, mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Si elle s'arrêtait là, on dirait c'est magnifique, c'est le miracle. Mais il y a quelque chose derrière. C'est peut-être cette deuxième partie qui m'intéresse la plus ce matin. Devant les résultats de cette pêche, Pierre, il n'a pas remercié Jésus, il ne s'est pas jeté par terre pour chanter la gloire de Dieu, merci, grâce à toi, je vais pouvoir nourrir ma famille, aller au marché, faire des économies. Pierre, il est bien tombé à genoux, mais c'est parce qu'il avait peur. Il était terrorisé par ce qui se passait. Les versets 8 à 9 disent... Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Car l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Tout ce que Pierre ressent à ce moment-là, c'est de la terreur. Quelque chose qui le fait paniquer et qui lui fait demander à Jésus « Pars, pars le plus loin possible de moi. » Qu'est-ce qui l'effraie à ce point, Pierre? Est-ce que c'est la puissance de Jésus, le miracle en lui-même? Probablement, ce n'est pas tous les jours qu'on doit voir ça. Mais je pense que ce n'est pas la seule chose qui lui a fait peur. Et ce n'est pas la seule chose qu'on voit dans ce qu'il dit à Jésus. Éloigne-toi de Jésus, ne reste pas à côté de moi, parce que je suis un homme pécheur. Là, maintenant, tout de suite, je me sens minable. Je ne me sens pas digne d'être en ta présence. Et le fait que toi, Jésus, tu sois tellement incroyable, ben, ça me ramène au fait que moi, je me sens très mal, là. Je ne me sens pas d'être à côté de toi. Ben, forcément, tu vas me regarder de haut. Toi, tu es puissant, tu peux accomplir des miracles. Et moi, je suis qu'un pécheur. Un pécheur de poissons, pas quelqu'un d'important, un homme du peuple. Mais aussi un pécheur, quelqu'un qui commet des péchés. Ma vie, elle n'est pas toute propre. J'ai quelques petits secrets à moi que j'aimerais bien que ça reste des secrets à moi, qu'ils ne soient pas exposés. Et être à côté de toi, qui est tellement brillant, tellement pur, bah forcément, tous mes mauvais côtés, ils vont ressortir. Pierre, c'était pas un assassin, c'était pas un bandit de grand chemin, c'était quelqu'un comme tout le monde. Mais en présence de Jésus, ce comme tout le monde, pour lui, c'est devenu pas assez, pas suffisant. Si déjà les gens importants, les grands prêtres, le prenaient de haut et étaient vaguement méprisants envers lui, alors forcément, Jésus, qui avait l'air plus puissant que chacun d'eux, ben, il allait le rejeter, le regarder comme un moins que rien, peut-être même lui jeter à la figure tous ses péchés. Alors ce qu'il y avait de mieux, ben, c'était de prendre du recul, pas se brûler à la flamme. J'aime tellement la réponse que Jésus va lui donner. Et je suis sûre que j'aurais aimé le regard que Jésus a porté sur lui à ce moment-là. Je pense que ça devait être un regard tellement plein de douceur. Au verset 10, Jésus dit à Pierre, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » N'aie pas peur. Toutes ces craintes que tu peux avoir, enlève-les de ton cœur. Moi, je ne regarde personne de haut. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Ce désormais, il m'impressionne. Parce qu'il y a vraiment l'idée de là, maintenant, tout de suite, à partir de cet instant, il va y avoir un changement radical qui va se passer. Pourtant, quand on regarde la suite de l'histoire de Jésus et Pierre, on ne peut pas dire que Pierre est vraiment sorti d'affaire. On le retrouve régulièrement dans les évangiles qui ne comprend rien à ce que Jésus essaye de lui expliquer. Il comprend tout de travers. Il se montre colérique, impatient. Il va renier Jésus. Et même encore plus loin dans le livre des Actes, le livre qui rapporte ce qu'ont fait les disciples après que Jésus n'ait plus été avec eux. Pierre, il ne va pas jusqu'au bout des messages qu'il reçoit parfois. Il n'arrive pas, surtout par rapport aux païens, à avoir le courage de se battre jusqu'au bout. J'ai presque envie de dire, où est-ce qu'il est, ce pêcheur d'homme que Jésus a vu en Pierre ? Bof. Mais je crois que tout ça, ça m'apprend quelque chose de fondamental sur ma vie à moi aussi. Lorsque Jésus a regardé Pierre, là, sur cette plage, Pierre qui était sale, fatigué, peut-être un peu de mauvaise humeur, effrayé surtout. Jésus, il n'a pas vu seulement ce Pierre-là à cet instant. Il a déjà vu qu'est-ce que Pierre pouvait devenir un jour, une fois que Dieu aurait travaillé en lui. Ce Pierre qui va témoigner à la Pentecôte devant toute une foule sans rien craindre, le Pierre qui acceptera de mourir pour défendre sa foi, le Pierre, un jour, quand Jésus reviendra et que cet homme n'aura plus de péché en lui, qu'il sera devenu parfait. Quand Jésus voit Pierre à ce moment-là sur cette plage, c'est déjà tout ça qu'il voit. Il ne nie pas ce que Pierre est maintenant, mais son regard ne se contente pas de maintenant. Il regarde ce que Pierre peut, a la possibilité de devenir. Et ce qui est valable pour Pierre, c'est valable pour moi, c'est valable pour vous. Lorsque Dieu nous regarde, il ne s'arrête pas à ce que nous sommes là maintenant, ce sabbat matin. Il voit plus loin. Il voit déjà ce que nous pouvons devenir si nous le laissons agir en nous. Je vous avoue que cette idée que Dieu m'accepte tel que je suis, maintenant, avec tous mes défauts, mais qu'il voit déjà ce que je vais devenir un jour, c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre. Intellectuellement, peut-être, je peux essayer, mais je n'arrivais pas à le comprendre pour moi dans ma vie de tous les jours. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer un artiste que j'admire beaucoup. Cet artiste s'appelle Jean-Pierre Augier. C'est un sculpteur qui travaille dans le sud de la France et il ne travaille que le fer et l'acier. Il fait des statues en fer en acier et pour ça, il utilise des vieux outils, des marteaux, des scies, des engrenages, un peu tout ce qu'il trouve pour en faire des œuvres d'art. J'ai eu la chance de visiter son atelier complètement par hasard, on était deux. On arrive, il était en train de travailler, alors on est rentré un petit peu gêné parce que c'est quand même quelqu'un qui expose dans le monde entier. Et puis il nous a vu, il s'est arrêté, il a dit « Ah, maintenant j'ai du temps, venez, on va discuter. » Il nous a emmenés dans son jardin, et là, dans son jardin, j'ai vu, je vous promets, des centaines d'étagères. C'est le sud, il pleut pas souvent, il peut se permettre de mettre des étagères dehors. Et dans les étagères, je ne sais pas combien de centaines, peut-être même de milliers d'outils, de toutes sortes. Et ces outils, je me suis dit, mais je lui ai demandé, mais vous avez une idée de tout ce que vous voulez faire avec ces outils ? Et là, il m'a regardé et il m'a dit, chaque outil qui est là, ce n'est pas que j'avais un projet et j'ai essayé... C'était un peu tôt, mais c'est pas grave, on le repassera. Chaque outil que je vois, ce n'est pas que j'ai un projet, j'essaie de trouver un outil qui va avec. C'est, quand je tombe sur un outil, je vois déjà dans ma tête qu'est-ce qu'il va pouvoir devenir un jour. Alors si c'est possible de remonter un petit peu en arrière et de repasser le diaporama, ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est que dans l'œuvre finale, on arrive à reconnaître quel était l'outil de départ. Ce n'est pas juste de la matière brute et puis on en fait totalement autre chose. Jean-Pierre Augier regarde un outil, il voit qu'est-ce qui fait qu'il est unique, particulier, et regarde chaque tache de rouille, chaque bosse, et il dit, avec ça, qu'est-ce que je peux faire pour le rendre unique et beau ? Personnellement, moi, ça m'a bouleversée de rencontrer cet homme-là. Je crois que vous voyez où je veux en venir, peut-être. Moi, Jean-Pierre Augier, il m'a fait penser à Dieu. Il m'a fait penser à Dieu qui me voit. Peut-être que je suis un outil un peu rouillé. Peut-être que j'ai été abîmée par la vie. Mais quand il me regarde, il me prend et il dit « Je sais ce que je veux faire avec toi, j'ai un plan pour toi. » Et tu peux devenir une œuvre d'art magnifique. Dans le travail de cet homme, chaque courbe, chaque déplacement est fait pour être beau, pour donner de la joie et du bonheur aux gens. Je veux croire que Dieu veut faire ça avec chacun d'entre nous aussi. J'ai envie de vous dire, j'avais une question à vous poser. J'aimerais vous la reposer. Est-ce que vous vous êtes déjà senti comme un vieil outil rouillé ? J'entends quelques réponses qui montent, j'espère que les autres répondent dans leur cœur. Ça n'a rien de péjoratif quand je dis un vieil outil rouillé. Mais j'espère que vous vous êtes senti comme ça un jour. Moi, je me suis déjà senti comme ça. Et je dis, c'est la meilleure place. Parce que si je suis un vieil outil rouillé, ça veut dire que je suis prête à entrer dans les mains du plus grand artiste de l'univers, Dieu, pour qu'il travaille en moi. Et j'ai l'espoir qu'un jour, il fera de moi une œuvre d'art. Et j'ai l'espoir qu'un jour, il fera de vous une œuvre d'art. Est-ce que tu te sens indigne, pas assez bien, pas utile, trop abîmé par la vie ? Si c'est le cas, je t'invite à penser au pot chinois de l'histoire du début, ou à l'outil de Jean-Pierre Augier. Jésus dit aujourd'hui, je peux faire de toi une œuvre d'art. Je peux faire de toi quelqu'un de différent. Ça prend du temps, mais nous pouvons travailler ensemble. Alors mets-toi à genoux, prie, demande-moi, parce que je n'agis pas sans que tu sois d'accord. Je suis là et je vois déjà le magnifique trésor que tu as la capacité de devenir. Pour beaucoup d'entre nous, je pense que on est entre les mains de Dieu, il est en train de travailler avec nous. S'il a fini de travailler avec vous, dites-le moi, c'est que vous êtes parfait, je serai ravie de vous rencontrer pour prendre exemple sur vous. Moi, je pense que qu'il a encore du travail avec moi, il est en train. Parfois, ça fait mal quand le Seigneur travaille. Les coups de marteau, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais gardons courage, parce que nous sommes dans les mains de l'artiste qui a créé l'univers. Alors imaginez ce qu'il est capable de faire de nous. Et puis un jour, au retour de Jésus, là le travail sera achevé. Nous pourrons nous regarder les uns les autres et nous émerveiller de voir ce que Dieu est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Mais je pense qu'on peut aller plus loin dès aujourd'hui. On peut entraîner notre regard à ne pas être jugeant, cassant, hautain, à nous rappeler que mon prochain dans cette église, dans la rue, c'est un outil rouillé. Mais ça veut dire que cet outil a la possibilité de devenir une œuvre d'art dans les mains de Dieu au même titre que moi. Qu'il n'y a rien de désespéré pour personne, parce que nous avons le plus grand artiste de l'univers qui travaille en nous. Nous sommes tous des chefs-d'œuvre potentiels. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau que cela. Alors je nous invite à apprendre à modifier notre regard sur nous. Ayez confiance en vous, vous êtes des chefs-d'œuvre. Et sur l'autre, parce que l'autre aussi est une œuvre d'art.